Nous sommes aujourd'hui dimanche le 15 juin 2025. Il est midi, une édition spéciale ce matin, vous imaginez bien, consacrée entièrement. Pendant une heure, nous serons avec des correspondants en Israël, mais aussi en Belgique, une édition spéciale donc consacrée à cette guerre qui, depuis 72 heures, bientôt fait rage entre Israël et l'Iran. Nous sommes en direct, bien sûr, avec Lise Benkemoun. Bonjour Lise.
Bonjour à tous. L'Iran a lancé dans la nuit environ 100 missiles et des dizaines de drones sur Israël, touchant notamment le centre du pays et la ville de Bat Yam, proche de Tel Aviv. Le bilan actuel est de 10 morts et de très nombreux blessés. 10 morts parmi lesquels 2 femmes, une petite fille de 8 ans et un jeune garçon de 10 ans. Entre 270 et 385 personnes ont été blessées pendant la nuit. La plupart d'entre elles ne souffrent que de blessures légères. 7 personnes sont gravement blessées selon le ministère de la Santé israélien. Les secours craignent par ailleurs un effondrement des structures touchées à la suite des tirs de la nuit dernière envoyés par l'Iran sur Israël. Il s'agit d'armements lourds avec des centaines de kilos d'explosifs qui démolissent les maisons privées, à l'exception des abris renforcés, assure le directeur du Magen David Adom. On cherche encore 3 personnes sous les décombres. Elles seraient coincées sous un immeuble à Bat Yam. Samedi soir, un autre missile a frappé également une habitation à Tamra, dans le nord du pays, tuant 4 membres d'une même famille et blessant 20 autres personnes. L'impact a provoqué l'effondrement quasi total du bâtiment de 3 à 4 étages. L'attaque de ce week-end a également endommagé de manière ponctuelle les canalisations et les conduites du complexe Bazan à Haïfa. À Rehovot, les recherches se poursuivent pour extraire une personne piégée sous les décombres. Ce matin, de nombreuses alertes ont également retenti dans le nord du pays à cause des drones, cette fois lancés par l'Iran. Les forces de Tzal ont intercepté au cours de la dernière heure 2 à 3 drones à la frontière syrienne dans le plateau du Golan. Des interceptions en dehors des frontières du pays, il n'y a donc pas eu d'alerte. Des tirs ont également été signalés depuis le Yémen avec des alertes concernant des incursions de drones en Samarie et dans la région du Sharon. Les missiles iraniens ont fait de larges dégâts. On n'a pas vu ça en Israël depuis très longtemps. Le pays est toujours en état d'urgence. Les Israéliens ne vont pas au travail et les enfants ne vont pas à l'école. L'agence de presse iranienne Fars a même révélé que l'Iran avait employé pour la première fois un missile d'un nouveau genre. Hajj Qassem, c'est son nom et c'est le nom en hommage à l'ancien commandant de la force Quds des gardiens de la révolution islamique Qassem Soleimani. Ce missile d'une portée de 1400 km pèse 7 tonnes, emporte une ogive de 500 kg et peut atteindre une vitesse de Mach 12 avant de frapper sa cible à Mach 6. D'après le ministre iranien de la Défense, il peut échapper au système de défense de la Fronde de David et des missiles Patriot. Selon Sky News Arabique, l'une des caractéristiques de ce missile réside justement dans le fait que son tir réduit la capacité des systèmes défensifs à le contrer. À Shiraz, dans le sud du pays, les forces israéliennes ont visé le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique ainsi que plusieurs centres militaires. Un projectile israélien a également frappé une usine électronique dans cette ville stratégique. L'Iran signale donc de nouvelles frappes israéliennes sur ses installations nucléaires à Ispahan et sur des sites stratégiques à Shiraz. Des ministres israéliens ont été informés aujourd'hui que l'ayatollah Ali Khamenei avait personnellement ordonné des attaques contre des centres urbains civils israéliens. Dimanche, l'armée israélienne a également déclaré avoir remporté jusqu'à présent d'énormes succès contre les programmes nucléaires et balistiques iraniens. Les hauts commandants et désormais les cibles économiques continuent contre l'Iran. Pas suffisamment de progrès pour l'instant pour dire quand les attaques aériennes pourraient réduire de manière substantielle sur Israël. Certaines sources américaines et israéliennes ont déclaré qu'avant la guerre, l'Iran disposait de 3000 missiles balistiques, mais que seuls 1000 d'entre eux environ pouvaient atteindre Israël. L'Iran a déjà tiré environ 300 missiles balistiques en 2024 sur Israël, plus 200 autres entre vendredi et samedi, et une autre salve massive d'environ 200 entre samedi et dimanche. Les responsables israéliens laissent toujours entendre qu'ils pensent que Téhéran pourrait en tirer plusieurs centaines d'autres au moins. Parallèlement, des rapports en provenance d'Ispahan font état de frappes contre des installations nucléaires dans cette ville centrale, siège d'importants complexes d'enrichissement d'uranium. Ces attaques visent à paralyser les capacités de défense aérienne et nucléaire iranienne.
Et depuis vendredi, Lise, l'armée israélienne a frappé environ 170 cibles en Iran, touchant 720 sites ou sous-cibles différents.
Depuis vendredi, donc, les gardiens de la révolution islamique ont officiellement reconnu l'élimination par Israël de 7 généraux de haut rang de leurs forces qui ont été éliminés aux côtés du commandant de l'armée de l'air lors des frappes israéliennes. Également, ce matin, on apprend la mort de Majid Tajanjari, personnalité reconnue dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la haute technologie en Iran. Il a également été éliminé lors d'une frappe contre un bâtiment résidentiel de Téhéran. Toutefois, l'armée israélienne a déclaré qu'il était essentiel que l'armée avance par étapes en éliminant d'abord les défenses aériennes, les hauts commandants et le site nucléaire de Natanz. L'armée israélienne a attaqué environ 80 cibles en Iran pendant la nuit et continue de mener les attaques presque sans interruption. Après cette étape, l'armée israélienne a commencé à se concentrer davantage sur les sites de missiles balistiques et les véhicules d'attaque. Contrairement à l'attaque contre le Hezbollah, l'armée israélienne ne peut pas utiliser une puissance de feu écrasante tous les jours indéfiniment. La plupart des drones israéliens ne peuvent pas atteindre l'Iran et les avions mettent plusieurs heures avant de s'y rendre au lieu des 15 minutes pour attaquer le Hezbollah.
Et un responsable de l'armée israélienne a déclaré que les progrès avaient été plus rapides que prévu et que l'armée américaine était, je cite, « très impressionnée ».
Israël Katz a déclaré ce matin et qu'il détruirait, que l'armée de l'air allait détruire et raser tout site militaire à Téhéran. Une escalade rhétorique donc de la part d'Israël. Une source haut placée du ministère de la Défense a également déclaré que l'évacuation d'une grande partie de Téhéran s'inscrivait dans un plan plus large visant à faire pression sur le régime iranien après ses attaques directes contre des civils israéliens. Le Conseil de sécurité nationale, de son côté, a mis en garde contre les tentatives de retour en Israël de ceux qui sont coincés partout dans le monde, particulièrement via la Jordanie et le Sinaï. Suite à la fermeture de l'aéroport Ben Gurion jusqu'à nouvel ordre, des initiatives privées voient le jour pour rejoindre Israël par voie terrestre en atterrissant au Sinaï ou en Jordanie. Le Conseil souligne que ces deux régions font l'objet d'alertes de voyage de niveau 4 reflétant une menace élevée et recommande vivement d'éviter ces zones, particulièrement en cette période de tension. Les Israéliens à l'étranger sont invités à attendre les instructions du ministère des Transports avant de planifier leur retour. 100 000 Israéliens sont toujours coincés en dehors du pays.
L'Iran, quant à lui, a sollicité Oman et le Qatar pour qu'ils servent d'intermédiaires auprès des États-Unis dans une tentative d'arrêter l'offensive israélienne et de relancer les négociations, selon une source impliquée dans ces discussions qui s'est confiée à I24 News ce matin.
Parallèlement, l'Arabie Saoudite tente également en coulisses d'obtenir une forme de cessez-le-feu pour reprendre les pourparlers. Ces démarches iraniennes interviennent alors que Washington précise que seul un accord iranien sur la proposition américaine, incluant l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, permettrait de mettre fin aux frappes israéliennes. Nous pouvons facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant, a écrit le président américain Donald Trump sur Truth Social. Les Américains restent persuadés que les Iraniens vont revenir à la table des négociations. Officiellement, pourtant, la version iranienne est très différente. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé cette nuit, tant que les attaques du régime israélien contre la nation iranienne se poursuivent, participer aux discussions avec son plus grand soutien et partenaire, les États-Unis, n'aurait aucun sens.
Et oui, fin de ce premier journal. Lise, merci beaucoup. Il est 12h10. Je vous le rappelle, nous sommes en émission spéciale ce matin pendant une heure, entre jusque 13h donc, pour essayer de vous faire vivre ou de vous relater les informations les plus fraîches, dirons-nous. Et nous sommes en ligne, Lise, avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Il est avec nous. Je vous laisse parler de tout cela avec lui, bien sûr.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Raphaël, il y a énormément de dégâts tout de même dans ces frappes iraniennes cette nuit. Et pourtant, en Israël, on semble dire que c'est moins que ce qui avait été prévu par l'état-major.
Pour l'instant, en tous les cas, on n'est qu'au début de cette guerre qui va durer et qui durera en tous les cas autant qu'il y aura de munitions du côté iranien, parce que ils ne concéderont jamais leur défaite et donc ils vont certainement lancer tout ce qu'ils ont. Le régime iranien se sent menacé, il est acculé, il veut absolument montrer qu'il résiste et donc il faut s'attendre à des nuits encore assez agitées sur ce plan-là. Avec des missiles, et la nuit dernière, en dehors des missiles habituels et des douzaines de drones qui sont arrivés en même temps, ainsi que des projectiles venant du Yémen, pour la première fois, les Iraniens ont utilisé un missile dont on ne sait pas combien ils en ont, un missile télécommandé qui est à longue portée, qui a une charge de 500 kilos d'explosifs, qui pèse 7 tonnes hein, mais qui va à 1400 km/h, et donc la nuit dernière un missile sur la centaine qui ont été jetés sur Israël était de ce type, beaucoup plus avancé, sophistiqué. Ça veut dire que les choses deviennent de plus en plus sérieux et malheureusement donc il faut s'attendre, et on le savait, à payer un prix fort et à des victimes.
Comment est-ce que vous trouvez, Raphaël Jérusalmi, la riposte de Tsahal après ces attaques meurtrières contre le centre d'Israël hier soir ?
Bien, la riposte est musclée. De toute façon, avant même la riposte, il y a eu la frappe initiale. Grâce à cette frappe initiale, la capacité de tir de l'Iran a été diminuée de 10 fois. Ça veut dire que jeudi, l'Iran pouvait tirer 1000 missiles à la fois. Elle avait assez de rampes de lancement et de systèmes pour tirer une salve de 1000 missiles qui auraient été extrêmement difficiles évidemment à intercepter. Nous avons un taux de succès de 95%, c'est pas hermétique à 100%, donc 1000 missiles, 5%, ça vous fait quand même 50 missiles qui passent au travers. Là, nous avons réduit cette capacité de 10 fois, donc aujourd'hui ils sont en mesure de tirer 100 missiles et pas 1000 sur Israël à la fois, dans une même salve. Mais par contre, ils peuvent envoyer des drones et, comme on l'a vu cette nuit, coordonner avec le proxy qui leur reste, c'est-à-dire les Houthis du Yémen.
Alors, les missiles balistiques qui ont fait le plus de dégâts, c'était les Houthis cette nuit, Raphaël ?
Non, il y avait des missiles de balistiques et de croisière du côté iranien aussi. Il y a aujourd'hui encore à peu près 2000 missiles balistiques aux mains des Iraniens. Donc, il faudra encore 20 salves de 100 missiles pour que les hangars soient vides. Ils ont commandé des pièces pour en faire encore 800 aux Chinois, mais ces pièces sont sur des bateaux, ils ne sont pas encore même arrivés en Iran. Donc, il en reste 2000 missiles balistiques. Par contre, il en reste beaucoup de missiles de croisière, moins efficaces, moins coûteux, mais quand même des centaines et des centaines de drones qu'ils produisent eux-mêmes. Car le vrai souci avec les Iraniens, c'est qu'ils remplissent eux-mêmes leur entrepôt de munitions en produisant en Iran même des missiles, etc. On a détruit plusieurs usines de missiles et de drones sur le sol iranien. On a donc bloqué cette production de missiles. On espère donc qu'ils vont s'épuiser, qu'ils vont tirer ce qu'ils ont et qu'après, faute de munitions...
Raphaël, est-ce que l'élimination de Ali Khamenei est, à votre avis, également un but de cette guerre ?
Vous pouvez répéter, on a été coupé.
Oui, est-ce que l'élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei serait aussi un des buts de cette guerre ?
Alors, au début dernier, parce qu'il faut quelqu'un avec qui signer un cessez-le-feu le cas échéant. Et que si on liquide Khamenei, il n'y a plus tellement d'autorité.
On a des problèmes de réseau. Ouais, avec
on a un problème de réseau. On comprend bien, je pense, ce que Raphaël et Jérusalem essayent de nous dire. Si je traduis bien, lisez-vous. Je parle sous votre contrôle. Il dit qu'il faudra bien quelqu'un pour un interlocuteur pour signer des cessez-le-feu, oui, s'il en était.
Il n'est pas encore temps de tuer Ali Khamenei.
Voilà.
On a saisi. On va pouvoir passer à notre invité suivant. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct.
Midi et 17 minutes après Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal que nous avions à l'antenne juste avant la pub. Nous allons maintenant retrouver le colonel de réserve et porte-parole francophone de Tsahal, qui n'est autre qu'Olivier Rafovitch, à votre micro. Lise, toujours dans cette édition spéciale guerre Israël-Iran. Je vous laisse bien sûr poser les questions toujours aussi pertinentes à Olivier Rafovitch.
Colonel Olivier Rafovitch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on voit qu'il y a beaucoup plus de tirs la nuit que le jour. Est-ce que c'est parce qu'Israël bombarde l'Iran pendant la journée, Olivier Rafovitch?
Oui, l'Iran a tiré près de 300 missiles balistiques depuis le début des opérations contre le nucléaire iranien. L'Iran a également utilisé des drones. Il se peut que l'Iran choisisse la nuit pour penser que c'est plus facile pour eux de tirer leurs missiles. Bon, en tout cas, nous avons des informations en amont qui nous permettent de monitorer en avance ces tirs et d'informer la population civile israélienne de l'arrivée des missiles pour protéger la population israélienne. Mais dans cette opération, nous avons depuis le départ envisagé et pris en considération le fait que les Iraniens allaient utiliser des missiles balistiques en réponse à l'action israélienne.
Bien sûr. Alors, on disait que effectivement, il y a tout de même un bilan qui est assez lourd, 10 morts et plusieurs centaines de blessés, mais visiblement, c'est moins que ce qui aurait été prévu.
Encore une fois, il faut être extrêmement prudent dans ses mots et avoir beaucoup d'humilité. Les dégâts étaient très importants hier et avant-hier. Les morts, 13 en tout et plus de 150 blessés, dont des blessés dans des états très graves et dont des enfants parmi ces morts et les blessés aussi sont à un bilan très triste. Mais nous continuons nos opérations et nous prenons en considération l'obligation de tout faire pour pas seulement éliminer la menace nucléaire, mais également toucher et réduire sensiblement la capacité balistique des missiles iraniens et le fait qu'ils puissent toucher Israël. Nous avons les moyens de systèmes antimissiles comme Hetz, flèche en français, mais malheureusement, ce sont des systèmes comme les systèmes du monde qui ne sont pas hermétiques à 100%. Et lorsqu'un missile touche le sol dans des zones résidentielles ou des zones habitées, le résultat reste un résultat très douloureux.
Effectivement, il y a beaucoup de dégâts. État d'urgence toujours, donc les Israéliens ne vont pas au travail, les enfants ne vont pas à l'école. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, Olivier Rafovitch.
Vous savez, Lise, nous sommes dans une guerre, le mot n'est pas adapté, dans une campagne militaire planifiée, programmée, avec des objectifs précis que j'ai définis. Et nous ne sommes pas avec un chronomètre dans la main pour mesurer combien de temps va durer cette opération. Elle durera le temps que cela est nécessaire pour arriver à obtenir ce que nous voulons, c'est-à-dire, un, que l'Iran n'ait jamais la possibilité de se doter de l'arme nucléaire, deux, que le potentiel de missiles balistiques ne soit plus une menace pour Israël, et trois, que le lien entre la tête du serpent et ce proxy dans la région, que ce lien soit réduit à zéro. Donc, ça prendra le temps que cela prendra, mais nous continuons à agir, et alors nous parlons, il y a des forces israéliennes, des forces aériennes israéliennes dans les cieux, dans les airs en Iran, et comme vous savez, nous avons dit hier, il y a un couloir aérien ouvert de l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran, ce qui nous permet d'agir comme nous le voulons par rapport aux objectifs fixés.
Alors, l'aéroport Ben Gurion est toujours fermé, Olivier Rachovitch. Pas de espace aérien fermé. C'est très rare en Israël. Pour l'instant, il y a beaucoup de compagnies qui ont annulé leur vol jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est une situation qui est un signe quand même que c'est peut-être plus inquiétant que ce qu'on a vécu depuis le début de la guerre.
C'est inquiétant, c'est de laisser l'Iran avoir la bombe atomique. Ce qui est moins inquiétant, c'est de frapper aujourd'hui le cœur du problème, c'est-à-dire la tête du serpent, celui qui depuis des années menace Israël, crie mort à Israël, du jour comme de nuit, et je rappelle que l'Iran fait des expositions annuelles avec des caricatures antisémites, que l'Iran finance, soutient des groupes terroristes anti-israéliens et antisémites de la pire espèce, que le Hamas, qui a lancé cette terrible guerre avec le massacre du 7 octobre, est soutenu à bras-le-corps par le gouvernement des Mollahs, des Ayatollahs. Tout cela réuni est effectivement une chose à laquelle nous répondons, et grâce à nos actions aujourd'hui, nous vivrons demain des jours meilleurs, mais il va falloir du temps, il va falloir de la résilience, de la force, de l'intelligence, de la fermeté et avoir aussi la foi dans nos hommes, dans nos femmes qui portent l'uniforme de Tsahal, qui sont aujourd'hui dans les cockpits d'avions de chasse et qui mènent des missions de combat existentielles pour l'État d'Israël et pour le peuple juif dans son ensemble. Parce que cette guerre face à un ennemi, faut le rappeler clairement, qui veut, qui désire, qui rêve de la destruction de l'État d'Israël, de l'anéantissement de l'État d'Israël, qu'il l'écrit, qu'il le dit, qu'il le chante dans tous les centres du monde, là où les Mollahs, les Ayatollahs se trouvent, c'est une mission existentielle à remplir, parce que nous devons être forts et nous protéger, et c'est une mission d'ailleurs Carole Lavanne, hein, bleu et blanc. Nous sommes seuls dans cette mission offensive d'amplitude énorme face à cette menace importante. Et encore une fois, soyons sûrs de notre armée, sûrs dans notre action, également sûrs de la justice et la justesse de notre action contre ce régime des Mollahs et des Ayatollahs.
Pour finir, colonel Olivier Rachovitch, vous disiez une mission blanc et bleu. Ça veut dire que cette nuit, par exemple, dans les arrestations des missiles iraniens, il n'y a pas eu d'aide des Américains ni d'autres pays, comme ça avait pu être le cas en 2024.
Je ne vais pas donner de détails par rapport à si oui ou non des éléments ont aidé ou pas dans la défense. Moi, je parle de l'action offensive. Et l'action offensive en Iran contre la volonté de devenir une nation nucléaire avec des bombes atomiques pour détruire Israël, toutes ces actions, elles sont Kahol Lavan, elles sont israéliennes, elles sont à 100% israéliennes. C'est une fierté de penser que le petit État d'Israël, qui est 75 fois, je crois, plus petit que la République islamique d'Iran, nous avons 10 fois moins d'habitants que la République islamique d'Iran, que ce petit pays magnifique que nous aimons plus que tout, se bat, se défend, se protège et passe à des actions qui ont surpris, il me semble, nos ennemis.
Merci beaucoup, colonel Olivier Rachovitch, porte-parole francophone de Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à tous les Israéliens, à très bientôt.
Je voudrais ajouter un mot.
Dites-nous.
Si vous permettez. Il est fondamental, je l'ai dit dans d'autres endroits, mais je le dis aussi durant cette action contre l'armée iranienne et l'Iran ici. Il est fondamental que les Juifs gardent confiance, aient la tête haute, soient fiers de l'État d'Israël et soient fiers de cette action. C'est une action qui est pas seulement pour l'intérêt sécuritaire d'Israël, mais également pour l'intérêt sécuritaire de la région et de l'Europe. Et là, Israël fait une action qui, en fin de compte, sera applaudi, soutenu par des pays qui aujourd'hui parfois n'osent pas le dire, mais regardent Israël avec énormément d'admiration.
Merci beaucoup.
Soyez fiers. Soyez fiers.
On a entendu le message. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitch. À très vite.
Merci, Lise.
Merci infiniment donc à Olivier Rafovitch, porte-parole francophone de Tsahal, vous le disiez, Lise. Et pour ceux qui ont décidé de nous suivre sur les réseaux sociaux en vidéo, bien sûr, je pense à nos auditeurs et téléspectateurs de Facebook, mais aussi de YouTube, où vous êtes assez nombreux. Eh bien, vous avez vu que nous a rejoint dans ce live Facebook et YouTube Viviane Teitelbaum, notre prochaine invitée, sénatrice et secrétaire générale de l'Institut Jonatas. J'imagine, Lise, que avec elle, vous allez évoquer la guerre vue de Belgique d'une certaine manière. Je vous laisse bien entendu en parler avec elle.
Tout à fait, Viviane Teitelbaum, bonjour.
Bonjour, Lise.
Je voulais que vous nous disiez justement comment vous avez l'impression qu'on vit cette guerre dans la communauté juive de Belgique et comment vous la vivez, vous, personnellement, Viviane.
Mais écoutez, dans la communauté, je pense qu'il y a d'abord un énorme soutien, une solidarité, et je voudrais aussi, à titre personnel, transmettre tous mes sincères condoléances aux familles qui sont endeuillées et à tous leurs proches. Je pense qu'on est toutes et tous inquiets. On appelle les gens de notre famille, on appelle nos amis, on veut s'assurer qu'ils aillent bien. On aimerait que tout le monde aille bien, j'ai envie de dire. Maintenant, je pense que il y a l'inquiétude, mais il y a aussi quelque part un soulagement parce que effectivement, l'Iran était une menace qui pèse sur l'existence
de la région.
Sur l'existence même de l'État d'Israël, sur la région, et sur les Iraniennes, et ces mots-là pèsent aussi au quotidien sur les Iraniennes et les Iraniens. Et donc, oui, un soulagement par rapport à ça, mais je pense de manière générale une grande inquiétude qu'on partage par rapport à tout ce qui se déroule, hein, bien évidemment.
Alors, d'autant plus, Viviane Teitelbaum, qu'on l'a bien vécu en Belgique depuis le 7 octobre. Ce conflit, il a été clairement importé dans les rues de Bruxelles. Vous avez été vous-même victime de menaces, on en a parlé sur cette antenne. Et le dernier épisode, si j'ose dire, de cette série à la fois dramatique et inadmissible, ce sont les affiches dans Bruxelles avec les têtes d'un certain nombre de juifs célèbres, comme un wanted de western de mauvais goût, sous-entendu si vous les reconnaissez, frappez-les dans la rue. C'est en gros, c'est ça que ça voulait dire.
Oui, je pense qu'on a atteint une limite qu'on n'imaginait pas possible dans ce pays qui a été aussi accueillant pour nos grands-parents, nos parents, selon la génération. Je pense que ce sont des lignes rouges qui sont franchies. Et à part quelques réactions politiques, je pense que ce qui pèse aussi sur la communauté, c'est l'indifférence dans laquelle ça se passe. On le voit, c'est dans la suite de ce déni de l'antisémitisme dans le pays et dans la suite de cet abandon. En fait, les Juifs se sentent abandonnés parce qu'ils le sont par beaucoup de dirigeants politiques. Il y en a quelques-uns qui s'expriment toujours avec beaucoup de courage, mais pour la grande majorité, c'est ce sentiment d'abandon. Et face à ces affiches, c'est un peu la même chose. On aurait aimé qu'il y ait une levée de bouclier politique générale en disant « là, c'est trop, ce sont des lignes rouges, on peut ne pas être d'accord, on peut débattre, on peut dialoguer, on peut avoir des idées opposées, mais ça doit toujours rester dans le cadre démocratique, dans le cadre d'un débat démocratique. Avec ces affichettes, avec les menaces que d'aucun et moi reçoivent, on est sorti du périmètre démocratique pour rentrer dans quelque chose qu'on n'imaginait plus possible et pas possible pour notre génération. Je pense que personne d'entre nous ne s'attendait à vivre ça, à ce que nos enfants doivent vivre ça. Et je le vois bien, que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit lors de rencontres, de dîners, on est quand même très, très nombreuses et nombreux à se poser la question, soit de notre avenir, soit de celui de nos enfants dans ce pays. Et ça, je le dis et je le redis, c'est un échec politique. Et il y a une responsabilité politique par rapport à ça.
Justement, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a vu le communiqué du CCOJB qui explique à quel point ces gens ont désormais donc une cible dans leur dos, que les antisémites ont franchi, comme vous l'avez dit, toutes les lignes rouges. La Belgique, qui est un état de droit, est-elle armée, vous qui êtes sénatrice, en termes légaux pour faire face à ce genre d'épisode qu'on n'avait pas prévu, très honnêtement?
Alors, je pense qu'en termes législatifs, non. Le MR a déposé récemment un texte de résolution demandant l'évaluation de la loi de 81, dite la loi Moreau. Je pense qu'il faut ad minima l'évaluer et sans doute la renforcer. Enfin, je dis sans doute, mais très certainement la renforcer. Je pense qu'il faut aussi avoir aujourd'hui un cadre législatif clair par rapport à l'apologie du terrorisme. On a dans l'accord de gouvernement la volonté de s'attaquer à des associations comme Samidoun, mais il faut aller au-delà. Il y a beaucoup aujourd'hui d'ASBL qui gravitent autour de Samidoun et qui sont un peu les porte-paroles et les paravents de Samidoun lors de demandes d'organisation de manifestations ou de conférences. Et je pense que oui, là, l'accord de gouvernement doit être mis en place. Je pense que le ministre Quintin est en train de travailler précisément là-dessus. Georges-Louis Boucher l'a redit. Ça, je pense que c'est essentiel. Mais il faudrait pouvoir, comme en France, agir immédiatement face à ces actes, face à cette apologie du terrorisme. Et ça, aujourd'hui, en Belgique, je pense qu'on n'est malheureusement pas encore assez armé, non.
Là encore, ce qu'on comprend, et finalement c'est la même chose, c'est qu'il y a un vœu d'éliminer les juifs, quels qu'ils soient, que ce soit, on va dire, des juifs célèbres, pas célèbres, petits, civils, militaires, israéliens, pas israéliens. C'est ça qui choque le plus peut-être, Viviane.
Mais oui, c'est on est entré aujourd'hui dans une nouvelle phase, hein, Lise. C'est mettre une cible dans le dos de certaines personnes. Je rappelle quand même qu'on est toujours au niveau 3 de l'OCAM en Belgique, hein. On n'a pas diminué le niveau de menace. Et là, en plus, on met des cibles dans le dos de certaines personnes, ouvertement, en les affichant dans l'espace public. Heureusement, bon, la commune d'Etterbeek, et je pense que le bourgmestre de Wolf était très volontaire par rapport à ça. Tout a été enlevé très vite et des plaintes sont recueillies. Mais je pense que effectivement, on a atteint un niveau. Je ne sais même pas si dans d'autres pays on a atteint ce niveau. Hein, il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui en Belgique, il y a une impunité qui fait que beaucoup se sentent pousser des ailes et se croient tout permis. Et donc, c'est un soulagement de voir que le procureur du roi de Bruxelles a décidé de sévir, qu'il veut mettre en place une tolérance zéro, mais ça doit aussi se refléter dans les faits. Il faut arrêter avec les classements sans suite, il faudrait que le parquet d'initiative poursuive. Il faut mettre en place les outils à tous les niveaux politiques, judiciaires, au niveau des ASBL. Il faut mettre en place une politique qui n'autorise plus qu'on menace des juifs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et parce qu'ils expriment des opinions que certains ne partagent pas.
Merci beaucoup, Viviane Tettelbaum, sénatrice et secrétaire générale de l'Institut Jonatas, d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à vous et à toute la communauté juive de
Belgique. Merci et au revoir aux auditeurs et aux auditrices.
On va donc passer à notre prochain invité.
Absolument, Lise.
Et il s'agit.
Ben oui, c'est ce que j'allais dire. On est avec Henri Sarrar, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche des BITS Ronistim, les sécuritaires.
Henri Sarrar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, ce matin, on lisait dans la presse israélienne Or que l'Iran et le Yémen ciblaient délibérément des zones civiles en Israël, que c'était leur stratégie, alors qu'Israël cible des cibles militaires et nucléaires.
Bien sûr, Israël est en train de mener la guerre du monde occidental, il faut le dire. Au nom du monde occidental, pour protéger l'Europe, protéger les États-Unis, protéger voire le Moyen-Orient, Israël est en train de mener un attentat contre les installations nucléaires, les installations de missiles balistiques de l'Iran. C'est un État terroriste, il faut le dire, la République islamiste de l'Iran, c'est un État terroriste qui vise sur des civils. Ici en Israël, hier soir, il faut le dire, je suis ici près de Tel Aviv, on est passé pas mal de temps à l'abri. Hier soir, un missile a frappé un bâtiment résidentiel à Batiam, pas très loin d'où je me trouve, avec au moins 10 personnes tuées par le régime iranien et des centaines qui ont été blessées. Une partie du bâtiment s'est écroulée à cause du fait que, voilà, il s'agissait d'un missile balistique avec quelques centaines de kilogrammes d'explosifs. Alors tout ça, ça nous incombe aussi à Tamara, une ville arabe dans le nord d'Israël, où une fille a été tuée, malheureusement, avec des dizaines de blessés. À Jérusalem, un bâtiment de 2 étages a été dédommagé, ainsi que des gratte-ciels à Tel Aviv qui ont été impactés par les missiles et à Rehovot. Tout ça nous incombe à estimer de nouveau notre avis sur le régime iranien, de nous rendre compte du fait que le régime pose un danger imminent sur l'Europe, sur Israël, sur le monde libre. Et voici, Israël mène un attentat que, très franchement, personne ne pensait possible au nom du monde occidental.
Alors justement, pour parler du monde occidental, Ori Sahar, on a tout de même l'impression qu'il y a un soutien international à cette opération d'Israël, peut-être pas très vocalement affirmé, mais au moins on n'entend pas de critiques beaucoup, et au maximum on entend « il faudrait peut-être un peu de retenue », etc. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. On voit même le président français, Emmanuel Macron, qui dit qu'il serait prêt de défendre Israël. Ça, c'est déjà encourageant. On voit bien que les États-Unis, même si Donald Trump lui-même ne veut pas intervenir en ce moment, mais il dit qu'il voilà, il soutient le droit d'Israël de se défendre. On entend des voix comme Keir Starmer, le premier ministre de Royaume-Uni, qui dit que voilà, il faut mener une désescalade et voici les deux parties, etc., etc. Tout le chant qu'on est utilisé d'entendre. Mais en gros, vous avez raison, le monde est à côté d'Israël. C'est encourageant. Et j'aurais dit que le monde entier, même si on a dit que voilà, il y avait un accord avec l'Iran qui a pu empêcher de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, on voit clairement aujourd'hui que c'était pas le cas, que l'Iran, c'était la course au nucléaire en Iran, et le régime a eu l'intention de se doter de l'arme nucléaire dans les semaines qui viennent. Israël a décidé que voilà, on se trouve dans un impasse où la voie de non-retour, où il faut agir. Israël a agi pour protéger ses civils, mais aussi pour protéger le monde libre.
Alors, la riposte de Téhéran, elle a fait quand même pas mal de dégâts, Ori Sahar. Et pourtant, vu le niveau de préparation de cette opération israélienne, on imagine qu'on s'était préparé aussi à la riposte.
Oui, on s'est préparé à la riposte. Et il faut dire que, voilà, l'interception, c'est jamais hermétique. Alors, on voit bien le système de dôme de fer, système de flèches, d'autres systèmes qui ont... ont protégé, ont intercepté ces missiles balistiques à l'air, des fois bien loin du territoire israélien, mais bien si que voilà, les missiles ont infligé des dégâts importants et occasionné des pertes aussi. Malheureusement, des centaines de personnes qui ont été blessées et quelques dizaines qui ont été tuées, malheureusement. Et les systèmes de défense aérienne israélienne, en fait, c'était pas une surprise le fait que la quasi-totalité des missiles ont été interceptés, mais voici, avec un tel barrage de missiles, il y aurait quelques-uns qui auraient pénétré cette défense, et malheureusement on voit bien les résultats. Les vidéos ont été extrêmement graphiques. Ok, on a entendu les booms, les sons d'explosion extrêmement bien à notre abri. Et voici, on voit des maisons à Rishon LeZion, à Bat Yam, à Rehovot, à Ramat Gan, à Tel Aviv, qui ont été totalement ruinées et dédommagées. Mais on voit aussi que le peuple d'Israël est fort. On le voit bien. Et que la quasi-totalité des gens suivent les instructions de l'armée pour se protéger, pour aller à l'abri. Et donc, voici les résultats.
Il y a eu beaucoup d'éliminations ciblées hors Issachar dans cette opération israélienne, et notamment, bien sûr, le chef des gardiens de la révolution islamique, son commandant de l'armée de l'air, beaucoup de personnalités du programme nucléaire. Récemment, donc encore aujourd'hui, une personnalité de l'intelligence artificielle et de la haute technologie en Iran. C'est important, ça aussi, ces éliminations ciblées pour, si j'ose dire, couper les attaques iraniennes. Il faut couper ces chefs.
Il faut couper la connaissance. Voilà. Alors, ce sont des personnes qui ont été des personnes clés selon l'armée. Ce sont des personnes clés en ce qui concerne l'industrie de l'industrie nucléaire de l'Iran. Alors, Israël s'est rendu compte qu'il faut non seulement cibler les installations nucléaires, les installations de missiles balistiques, mais aussi les personnes clés qui mènent cette opération. Alors, Faridoun Abbasi, par exemple, il était le chef de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran il y a 10 ans, il y a une décennie. Il a récemment dit dans une interview que voilà, si le leader iranien m'aurait demandé de fabriquer une arme atomique, je l'aurais fait. Alors, voici quelques déclarations en communiqué public qui n'ont été pas très bien développées ou évoluées. Mais on voit aussi les autres scientifiques, scientistes, des personnes de science partout à Téhéran et ailleurs en Iran qui ont été ciblés par Israël pour la prochaine fois de l'histoire qu'on l'a avoué. C'est-à-dire, dans le passé, s'il y avait des personnes clés de l'industrie nucléaire de l'Iran qui ont été ciblées, Israël n'a jamais pris de responsabilité sur ces éliminations ciblées. Et là, on voit bien que l'IDF, voilà, l'a avoué. C'est un développement important.
Or, Issachar, évidemment, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, et c'est très difficile, c'est de savoir combien de temps ça va durer, puisqu'on sait que l'Iran a encore peut-être à peu près 2000 missiles balistiques et plusieurs centaines de missiles de croisière qu'il peut envoyer sur Israël. On sait que, voilà, donc à coup de 200 par jour, ça peut encore faire 10 jours très difficiles à vivre pour Israël.
Bon, il y aura des jours difficiles. C'est évident pour tout le monde ici en Israël, mais la résilience du public est forte. C'est évident. Alors on voit bien les peuples de Bat Yam, de Rehovot, de Rishon LeZion, de Tamara, qui ont été lourdement ciblés par les missiles iraniens. On voit comment le régime iranien cible des civils en Israël et sans discrimination. On voit que le peuple continue de soutenir cette action. Qui est essentiel pour le futur et la survie de l'État d'Israël. Mais on voit aussi bien qu'Israël a cessé de faire dans la dentelle. Hein? On ne fait plus dans la dentelle. Et même les installations nucléaires qu'on a pensé impossible de cibler, des personnes clés de l'industrie nucléaire de l'Iran et d'autres étapes qui sont absolument essentielles pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, les scientifiques, etc. Tout cela nous incombe de repenser notre assumption, j'aurais dit, réimaginer à la façon de laquelle on pense les capacités d'Israël et retourner l'Iran au centre de la discussion et se rendre compte que depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant, c'était l'Iran qui était derrière tous les attentats aux alentours d'Israël, à 360 degrés, que ce soit de la bande de Gaza, du Liban, du Yémen, les Houthis, les milices en Syrie et en Irak, et bien sûr l'Iran lui-même. Tout ça nous incombe de repenser la façon de laquelle on pense de le Moyen-Orient, comprendre que c'est l'Iran qui est derrière la quasi-totalité du terrorisme dans le Moyen-Orient.
Ma dernière question, Henri Sahar, on parle tout de même de contact à l'initiative de l'Iran pour éventuellement mettre fin à la guerre. Ils auraient appelé Chypre pour leur demander de passer le message aux Israéliens d'arrêter. Ils auraient aussi sollicité Oman et le Qatar pour qu'ils servent d'intermédiaire auprès des États-Unis pour arrêter la guerre avec Israël. Est-ce que ça n'est pas un signe de faiblesse de la part de Téhéran?
Bon, on voit pas mal de signes de faiblesse de la part de Téhéran. On voit même dans des sites qui suivent le mouvement aérien, par exemple des voilà des vols qui partent de Téhéran J'assume, j'imagine bien qu'ils sont avec des hauts responsables politiques du régime. On voit que les civils, les résidents partout en Iran, ainsi que des gens qui en exil, qui sont iraniens, ont lourdement critiqué le régime et soutenu, qui soutiennent Israël. Et c'est absolument remarquable. Je sais qu'en Belgique, en France, il y a une diaspora qui est significative, une diaspora importante des Iraniens qui sont en exil. Et c'est absolument inspirant de voir les Iraniens soutiennent Israël contre le régime. Et voici un signe qu'il s'agit d'une action d'Israël au nom du monde libre contre le régime, le programme nucléaire, le programme de missiles balistiques pour peut-être libérer l'Iran de ce régime oppressant. Mais c'est à eux à décider. C'est-à-dire, il est clair maintenant qu'il y a un dénominateur commun entre Israël et le peuple iranien et contre le régime. Et voici, à partir de ce moment-là, c'est leur décision, à eux, de décider ce qui va se passer avec le régime. Mais Israël est extrêmement clair. Le régime ne va pas posséder des armes nucléaires. Le régime ne va pas posséder un programme de missiles balistiques. Il ne va pas menacer l'État d'Israël à élimination, à annihilation. Et on va prendre toutes les étapes nécessaires pour se protéger, pour se défendre, au nom du monde libre.
Justement, pour finir là-dessus, Henri Sarrar, est-ce que vous avez confiance que le peuple iranien va se révolter contre le régime des Mollahs?
Bon, je ne sais pas, mais j'espère bien qu'ils voilà, ils vont passer leur message de façon claire. En gros, j'ai dit même avant cet attentat, vous m'avez interviewé à plusieurs reprises, j'ai dit ce qui m'intéresse, c'est pas la stabilité du régime. Ce qui m'intéresse, c'est de nier de l'Iran des capacités. Les intentions, je sais bien qu'ils vont continuer de poser les intentions, mais quant aux capacités, je veux nier du régime le programme nucléaire et le programme de missiles balistiques. Quant au futur du régime, c'est au peuple iranien à décider.
Merci beaucoup, Henri Sarrar, d'avoir été avec nous ce matin, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche des Bitronistim et sécuritaires. Bonne journée à vous, à très bientôt.
Bonne journée, merci.
Merci beaucoup donc à Henri Sarrar. Il est 13h tout pile sur Radio Judaïka. C'est le moment pour nous de refaire un point sur l'actualité, Lise. L'Iran a lancé dans la nuit environ 100 missiles et des dizaines de drones sur Israël, touchant notamment le centre du pays et la ville de Bat Yam, proche de Tel Aviv. Le bilan actuel est lourd, de 10 morts et de très nombreux blessés.
10 morts parmi lesquels deux femmes, une petite fille de 8 ans et un jeune garçon de 10 ans. Plus de 300 personnes ont été blessées pendant la nuit, la plupart seulement légèrement. 7 personnes grièvement blessées selon le ministère de la Santé israélien. On cherche encore 3 personnes disparues sous les décombres coincées sous un immeuble à Bat Yam. Un missile avait également frappé ce week-end à Tamra dans le nord du pays, tuant 4 membres d'une même famille. Ce matin, les alertes avaient également retenti à cause de nombreux drones envoyés par l'Iran, des tirs également signalés depuis le Yémen. Des dégâts pareils, on n'avait pas vu ça en Israël depuis très longtemps. Le pays est toujours en état d'urgence. Les Israéliens ne vont pas au travail et les enfants pas à l'école.
Et l'agence de presse iranienne Fars a même révélé que l'Iran avait employé pour la première fois un missile guidé cette nuit.
Oui, on ne sait pas trop si c'est de la propagande ou si c'est vrai. On attendra les prochains jours pour vérifier ça. Un missile qui s'appelle Adji-Qassem, d'une portée de 1400 km, qui pèserait 7 tonnes. D'après le ministre iranien, il peut échapper au système de défense de la fronde de David et des missiles patriotes. Son tir réduit la capacité des systèmes défensifs à le contrer.
Et l'Iran signale de nouvelles frappes israéliennes sur ses installations nucléaires à Ispahan et sur des sites stratégiques, notamment à Shiraz.
À Shiraz, dans le sud de l'Iran, les forces israéliennes ont visé le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique ainsi que plusieurs centres militaires. Un projectile israélien a également frappé une usine d'électronique dans cette ville stratégique. Des ministres israéliens ont été informés aujourd'hui que l'ayatollah Ali Khamenei avait personnellement ordonné des attaques contre des centres urbains civils israéliens. L'armée israélienne, de son côté, a déclaré avoir remporté jusqu'à présent d'énormes succès contre les programmes nucléaires projet balistique de l'Iran, les hauts commandants des gardiens de la révolution et désormais plusieurs cibles économiques. Les Israéliens n'assurent avoir pas suffisamment progressé pour pouvoir prédire clairement quand les attaques iraniennes à l'aide de missiles balistiques vont pouvoir cesser. L'installation la plus significative touchée à Shiraz est l'usine de fabrication de presque tous les radars pour divers systèmes de défense en Iran. Parallèlement, des rapports en provenance d'Ispahan font état de frappes contre des installations nucléaires dans cette ville. Ces attaques visent à paralyser les capacités de défense aérienne et nucléaire iranienne.
Et depuis vendredi, l'armée israélienne a frappé environ 170 cibles en Iran, touchant 720 sites ou sous-cibles différentes.
Les gardiens de la révolution islamique ont officiellement reconnu l'élimination de 7 de leurs généraux aux côtés de leur chef et de leur commandant de l'armée de l'air. Toutefois, l'armée israélienne a déclaré qu'il était essentiel de continuer d'agir contre l'Iran par étapes, en éliminant d'abord les défenses aériennes, les hauts commandants et les sites nucléaires hautement défendus. L'armée israélienne a attaqué 80 cibles en Iran cette nuit et continue de mener ses attaques presque sans interruption. La plupart des drones israéliens pourtant ne peuvent pas atteindre l'Iran et les avions mettent tout de même plusieurs heures à s'y rendre. C'est donc un challenge technologique pour les Israéliens.
Et un responsable de l'armée israélienne a déclaré que les progrès avaient été plus rapides que prévu et que l'armée américaine était, je cite, « très impressionnée ».
Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, a fait un point ce matin et félicité toutes les équipes qui ont participé à ces opérations. Il annonce de son côté que l'armée de l'air va détruire et raser tout site militaire à Téhéran. Il accuse l'ayatollah Ali Khamenei d'avoir fait de la capitale iranienne un second Beyrouth. Une source haut placée au sein du ministère de la Défense a déclaré ce matin que l'évacuation d'une grande partie de Téhéran s'inscrivait dans un plan plus large visant à faire pression sur le régime iranien après ses attaques directes contre des zones civiles en Israël.
Le Conseil de sécurité nationale a mis en garde contre les tentatives de retour en Israël via la Jordanie et le Sinaï.
Suite à la fermeture de l'aéroport Ben Gurion, jusqu'à nouvel ordre, des initiatives privées voient le jour pour rejoindre Israël par voie terrestre. En atterrissant dans le Sinaï ou en Jordanie, le Conseil souligne que ces deux régions font l'objet d'alertes de voyage de niveau 4, reflétant une menace élevée et recommande donc d'éviter ces zones. Les Israéliens à l'étranger sont invités à attendre les instructions du ministère des Transports avant de planifier leur retour. 100 000 Israéliens sont toujours coincés en dehors du pays. Le Conseil de sécurité leur déconseille également de se rendre à Chypre, Larnaca ou Athènes, expliquant qu'ils n'auront aucune garantie de se rendre ensuite en Israël.
Et enfin, la République islamique d'Iran a sollicité Oman et le Qatar pour qu'ils servent d'intermédiaires auprès des États-Unis dans une tentative d'arrêter l'offensive israélienne et de relancer les négociations. Cela, selon une source impliquée dans ces discussions, qui s'est confiée à I24 News ce matin.
Des démarches iraniennes qui interviennent alors que Washington précise que seul un accord iranien sur la proposition américaine incluant l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium permettrait de mettre fin aux frappes israéliennes. Nous pouvons facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant, a dit le président Donald Trump sur Truth Social. Officiellement pourtant, la version iranienne est très différente. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé dans la nuit, tant que les attaques du régime israélien contre la nation iranienne se poursuivent, participer aux discussions avec les États-Unis n'aurait aucun sens.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce midi concernant ce conflit entre Israël et la République islamique d'Iran, qui depuis, je vous le rappelle, la nuit de jeudi à vendredi fait rage. Lise, donc fin de cette heure spécialement consacrée à ce conflit, avec quand même un dernier mot peut-être avant de nous quitter concernant, parce que vous êtes nombreux à réagir sur nos différents réseaux sociaux, à l'intervention limite, et pour ne pas dire outrancière, de Ramin Param, notre intervenant tout à l'heure. Ramin Param, un écrivain exilé en France, opposé au régime des Mollahs, qui a tenu des propos pour le moins, je le disais, offensant, voire mensonger.
Oui, j'avoue que j'ai moi-même été scotchée et je pense que ça s'est ressenti pendant l'interview, Didier, sachant que Ramin Paran est un opposant iranien exilé en France depuis des années, qui a critiqué le régime de Mollah et à juste titre depuis très longtemps. On savait qu'il était anti-Benjamin Netanyahou, on ne savait pas qu'il était devenu anti-juif, voire délirant. Donc voilà, toutes nos excuses à nos auditeurs pour qu'on l'ait invité ce matin. Et à partir du moment où il était là, bah effectivement, j'ai essayé de lui poser des questions et d'entendre des réponses qui soient cohérentes. Ça n'a pas forcément été le cas. Je pense que les autres invités de cette édition spéciale ont remis les pendules à l'heure, et notamment Ori Sahar, le dernier que l'on vient d'entendre, qui est lui aussi un grand spécialiste de l'Iran. Voilà, merci en tout cas pour votre fidélité et pour toutes vos réactions. On voit bien donc que vous écoutez la radio et c'est bien ce qu'il nous fallait savoir. On vous souhaite tout de même une bonne journée. On est de tout cœur avec le peuple israélien qui est près des abris et constamment attaqué. Et on espère que ça va pouvoir prendre fin d'ici quelques jours.